Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.
Madame la sénatrice Canoy-Moret, bonjour. Merci de participer à Franska podden, le podcast de l'ambassade de France en Suède. C'est un vrai plaisir de vous accueillir.
Bonjour à vous.
Alors pour commencer ce podcast, pourriez-vous en quelques mots vous présenter, nous décrire un peu votre parcours et puis nous parler aussi de votre rôle de sénatrice des Français à l'étranger?
Alors, c'est le rôle le plus important. Je suis donc élue au Sénat en tant que sénatrice représentant les Français établis hors de France sur une circonscription planétaire qui représente une population d'à peu près 3 millions de personnes. C'est ce que nous estimons. 1 600 000 sont enregistrés sur le registre des Français de l'étranger. Et puis, dans le cadre de ma mission de sénatrice, je suis bien sûr tenue d'aller au contact de celles et de ceux que je représente, mais également au Sénat. Je suis secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Et dans ce cadre-là, je suis bien sûr amenée à m'intéresser à toutes les questions internationales, dont les questions internationales est traitée aussi notre action extérieure et donc le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères avec son budget. Et c'est ce que nous allons discuter dans quelques semaines. Nous nous préparons avec un bon nombre d'auditions. Et puis, dans cette commission, qui est la commission donc, des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, je suis rapporteur pour le budget de l'équipement des Forces armées. Ça s'appelle le programme 146. C'est le plus gros investissement de l'État en France qui est réalisé pour l'achat d'équipements militaires, leur modernisation simplement l'utilisation qu'on peut en faire, notamment dans les OPEX.
D'accord. Et alors, justement, vous l'avez mentionné un tout petit peu, mais quels sont les travaux parlementaires qui vous mobilisent actuellement ou qui vont mobiliser vous et puis votre équipe dans les prochaines semaines?
Alors, puisque nous sommes au mois d'octobre, nous travaillons déjà beaucoup sur des auditions pour la préparation du débat budgétaire qui aura lieu dans quelques semaines. C'est un débat qui se passe en deux temps. D'abord, avec mon co-rapporteur, nous présenterons le budget et notre réaction à ce que le gouvernement propose pour le programme 146, qui sera donc présenté en commission. S'il est adopté en commission, ensuite nous avons un débat dans l'hémicycle où la ministre sera présente. Et entre-temps, nous avons l'audition à la fois des militaires, puisque c'est ceux-là que nous équipons, des industriels, puisque ce sont eux qui fournissent, et puis un dialogue aussi en amont avec le cabinet de la ministre pour préparer ce budget, pour voir qu'il est bien en phase avec les besoins exprimés par les uns, ce que les autres peuvent produire et fournir, et puis l'argent que l'État investit. Donc c'est une équation finalement avec trois éléments principaux où nous devons répondre aux besoins, nous assurer que nous sommes en capacité de le faire et surtout que nous avons les moyens de le faire. Voilà, donc ça c'est le travail qui nous occupe beaucoup dans les semaines qui viennent. Préparation éventuellement d'amendements aux textes de loi proposés par le gouvernement. Et puis en parallèle, il y a bien sûr tout le travail qui est réalisé pour les Français de l'étranger. Donc nous avons un réseau diplomatique, un réseau culturel, un réseau éducatif, un réseau économique. Et là aussi, je suis directement impliquée sans être rapporteure. Dans ce que je peux évaluer des besoins qui sont exprimés sur le terrain. Et c'est un peu le but de ma visite aussi ici également, qui a deux volets, un volet à la fois donc français de l'étranger, nos réseaux, notre présence en Suède, et puis un volet défense avec les différentes rencontres que j'ai pu réaliser dans le cadre bilatéral avec notre ambassadeur. Et donc là aussi, un engagement, une préparation d'amendements, puisque je ne suis pas directement liée au budget, mais pour participer et éventuellement demander des crédits supplémentaires pour certaines lignes budgétaires, si je pense que les moyens qui sont proposés par le gouvernement ne sont pas à la hauteur des besoins exprimés sur le terrain, ce que j'ai pu, moi, observer, hein, puis collectivement, avec mon groupe, de décider comment nous réagissons aux propositions du gouvernement. Donc voilà, ça c'est le travail. Et puis bien sûr, le travail qui est fait de tout parlementaire, c'est-à-dire de répondre à différentes sollicitations, regarder aussi globalement dans le travail qui nous revient de contrôle du gouvernement, de réaction avec mon groupe à ce que le gouvernement propose. Par exemple, là, c'est le contrôle, par exemple, des passes sanitaires. C'est ce qui a été voté à l'Assemblée nationale pendant la nuit par les proviseurs. Voilà. Donc ça, c'est de la politique, c'est réaction politique. Est-ce que nous sommes pour ou contre ce que le gouvernement propose? Donc, et c'est l'actualité, on va dire, quotidienne que nous suivons. Et puis, alors il y a le temps court et puis le temps long du travail du législateur.
D'accord, mais très intéressant. Et alors, vous l'avez dit dans votre laïus introductif, vous vous démarquez pour votre expertise sur les sujets de défense. Vous êtes secrétaire national chargé de la défense de la nation au sein du Parti socialiste auquel vous appartenez. Mais surtout, vous l'avez dit, la secrétaire de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées au Sénat. Vous avez d'ailleurs dans ce cadre co-rédigé un rapport d'information intitulé « Quelle boussole stratégique pour l'Union européenne ?». Ma question est la suivante, quel est le regard que vous portez sur ce concept d'autonomie stratégique européenne?
Alors, cela fait plusieurs années, je suis aussi administratrice de la Fondation Jean Monnet. Je suis vraiment une pro-européenne. Je pense que nous avons une chance extraordinaire de vivre sur un continent qui est en paix depuis plus de 70 ans et que c'est peut-être l'élément le plus précieux que nous oublions parce que nous sommes habitués à ce que voilà, nous soyons en paix, qu'il n'y ait pas de guerre sur notre continent. Et pourtant, c'est un élément qui est fragile, qui a besoin d'être protégé. Nous avons besoin de nous battre. Alors, c'est peut-être le mauvais terme à utiliser. En tout cas, de tout faire pour que cette paix continue à perdurer. Et c'est aussi la force de l'Union européenne et de l'Europe en général de pouvoir servir d'exemple pour d'autres et dans des instances multilatérales, de pousser à la paix partout. Hein, parce qu'on voit les dégâts que la guerre, qu'elle soit civile ou entre États, génère sur les populations, sur l'économie, enfin sur tous les aspects de voilà. En plus la destruction de l'environnement. Donc dans ce cadre-là, je m'intéresse depuis plusieurs années à la défense européenne. Donc, j'ai commis un rapport avec mon co-rapporteur parce que nous travaillons en binôme au Sénat. Hein, dans la commission, il y a toujours un représentant de la majorité et de la minorité parce que d'abord le rapport est présenté en commission et c'est une bonne façon qu'il soit adopté. Et puis parce que nous avons des visions un petit peu différentes et puis on arrive à un consensus et un projet sur lequel nous travaillons qui débouche sur une publication qui est un équilibre politique, on va dire. Et donc je m'intéresse à la défense européenne. L'année suivante, j'ai travaillé sur le SCAF, qui est le futur système de combat aérien, parce que j'y vois là un outil pour justement avoir quelque chose de très concret dans cette défense européenne, de ne pas rester au niveau des incantations, des concepts, mais de travailler sur quelque chose de réel, qui débouche sur quelque chose de concret, qui est la défense de notre espace, et pas simplement aérien, parce que c'est un système de combat et pas simplement un avion que l'on va construire. Et donc, c'est aussi la possibilité d'investir massivement dans la recherche et l'innovation, quand on sait qu'aujourd'hui, tout ce qui est dépensé en matière de recherche pour la défense a une application duale, c'est-à-dire dans le civil. Et donc, les recherches qui sont faites dans l'aérien bénéficient immédiatement à l'aviation civile, notamment pour, par exemple, l'hydrogène, le travail qui est fait. C'est un travail qui a été fait par les industries de défense au départ et qui, aujourd'hui, est quand même embrassé par l'aviation civile, à savoir est-ce que les avions de demain pourront propulser avec de l'hydrogène. Et donc, la boussole stratégique, j'arrive à ça, est j'ai l'impression qu'on avait perdu le nord. Là, nous y sommes. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui collectivement? Est-ce que nous avons cette envie de nous défendre collectivement? Est-ce qu'il y a une solidarité au sein de l'Union européenne et plus largement au niveau du continent européen? Et à quoi cet outil, c'est comme le SCAF, c'est comme le Fonds européen de défense, peut être un outil d'une prise de conscience de la nécessité de pouvoir faire face à des ennemis potentiels, à des menaces potentielles, et comment nous y répondons collectivement sans nous reposer immédiatement sur notre allié américain, qui lui, aujourd'hui, et pas simplement aujourd'hui, mais depuis quelque temps, s'intéresse beaucoup plus à une autre partie du monde, qui est l'Asie et notamment la Chine, de se dire que dans un contexte où nous serons peut-être amenés à nous défendre tout seuls, et c'est déjà le cas, par exemple, dans le domaine du cyber aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a des États qui interfèrent, et peut-être de plus en plus, au moment de périodes qui sont très importantes pour nous, qui sont des élections, hein, avec une désinformation, avec une propagande qui fait qu'ils seraient amenés à voilà, favoriser certains candidats qui leur seraient également favorables. Hein. Je parle là des partis d'extrême droite, en tout cas en France, avec la leader du parti d'extrême droite chez nous, qui a des affinités avec le président Poutine. Et voilà. Bon. Donc, dans ce contexte-là, je pense que nous avons déjà intérêt collectivement à nous protéger de cela, parce que c'est notre modèle démocratique, de fait, qui est sous pression. C'est pas, vous savez, les guerres de demain, ça ne sera pas simplement des chars. C'est la désinformation, ça se passe à un autre niveau, ça se passe dans l'espace, ou ça se passera dans l'espace, ça commence déjà un peu. Et donc on a besoin, nous, Européens, d'être en capacité de défendre nos intérêts et de défendre notre espace. Et si on le peut, eh bien, de pouvoir conserver la paix voilà, qui nous est chère.
D'accord, mais c'est vraiment passionnant. Alors, on va s'éloigner un petit peu du prisme de la défense et se concentrer plus sur la tournée que vous êtes en train de faire dans les pays nordiques. Donc, vous étiez en Norvège il y a quelques jours et vous partez tout à l'heure pour la Finlande. Alors, question très simple, pourquoi maintenant et surtout pourquoi avoir choisi le choix de la Scandinavie?
Alors, la Scandinavie, parce que je crois qu'il y a une montée de la prise de conscience de l'importance du Nord pour nous. Pour des raisons historiques, culturelles et autres, nous sommes concentrés depuis toujours sur le Sud, avec le lien que nous avons avec l'Afrique, l'Afrique du Nord, mais également l'Afrique subsaharienne. Et donc, aujourd'hui, au vu d'un ordre mondial qui est en train de changer, et on le voit bien, hein, avec pas simplement la dominance ou prédominance des États-Unis, mais la Chine qui monte en puissance et qui de fait met au défi les Américains aujourd'hui. Et puis on se dit que nous avons besoin collectivement, et donc cela prend la partie nord et la partie est de notre continent, de prendre en compte les analyses de ces pays quant aux menaces. Bon, on a aussi, on partage le continent avec un très grand pays qui est la Russie, et que, eh bien, aujourd'hui, nous avons collectivement besoin d'analyser ces menaces, d'où la boussole stratégique, hein, qui mettait sur la table l'analyse des menaces des 27, et comment nous y répondons collectivement. Et donc, de se dire que, voilà, de savoir comment ces pays aujourd'hui évoluent, ce sont des pays qui ont un lien transatlantique très, très fort, traditionnel, comme nous avons un lien avec l'Afrique traditionnelle, et que, avec ce qui s'est passé, notamment en Afghanistan récemment, la façon dont les Américains ont traité les Français sur l'affaire des sous-marins australiens, de se dire que nous avons peut-être besoin d'être à la fois plus solidaires, plus unis. Et je crois qu'il y a une prise de conscience également dans ces pays nordiques d'un besoin de rapprochement avec le reste de l'Europe. Et que sans remettre en question le lien transatlantique, qui est fort, et que nous-mêmes, Français, nous ne remettons pas en question, de se dire que nous pouvons avoir un lien transatlantique excellent, sur le plan diplomatique, militaire, des échanges, et ainsi de suite, mais que cela ne doit pas nous empêcher, nous, les 27, et puis ben, les autres aussi, parce que la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, et les Britanniques non plus, maintenant, malheureusement, mais il faut qu'ils restent vraiment amarrés à notre continent, on en a besoin, de voir comment on peut avancer ensemble. Et donc, il est très important de venir à l'écoute, et c'est ce que j'ai fait dans les différentes rencontres que j'ai pu avoir ici, et j'ai noté vraiment cette prise de conscience, en effet, de dire, mais la France est importante pour nous aussi, les Américains, bien sûr, les Anglais aussi. Et puis, je voulais aussi savoir comment, sur le plan régional, il y a un renforcement. Aujourd'hui, on voit des coopérations entre la Suède et la Finlande, avec la Norvège, avec le Danemark, de voir qu'aussi cette région est en train de se consolider. Il y a d'énormes efforts qui sont faits, qui sont réalisés en matière de défense, par recrutement, enfin voilà, achat de matériel, on voit l'augmentation du budget, la conscription qui est réactivée. Donc on se dit que voilà, il y a des gros efforts et que tout ça est dans le même mouvement que le nôtre. Donc c'était pour voir sur le terrain comment ça se passe Et si vraiment ce que nous détectons en France, comment ça se traduit dans la... Et quand on est parlementaire, on a cette liberté finalement, on n'est pas encadré. J'ai été ministre aussi, donc dans ce cadre-là, je sais très bien qu'on a les éléments de langage sur la base du discours officiel, qu'on n'a pas en tant que parlementaire, parce qu'on a cette liberté de pouvoir discuter librement et de tirer un petit peu des choses qui ne seraient pas dites dans une rencontre protocolaire où tout est incroyablement cadré. Et donc, je crois que j'ai vraiment ce sentiment très, très fort d'une envie des Scandinaves. Enfin, bon, j'ai encore un pays à voir, mais je ne pense pas qu'ils auront un discours différent par rapport à nous et nous par rapport à eux.
Et justement, peut-être pour rebondir, et ça sera la dernière question, vous avez passé donc 2 jours en Suède à la rencontre des Français résidant à Stockholm. Vous avez passé du temps avec les étudiants du lycée français de Saint-Louis. Vous avez également rencontré votre homologue suédois Niklas Karlsson, qui est vice-président de la commission de défense au Riksdag. Et vous vous apprêtez à discuter des enjeux stratégiques et de défense avec Björn Fagersten du think tank suédois UI. D'où ma question, quels sont les enseignements de votre visite en Suède et peut-être vos sentiments sur cette relation bilatérale?
D'abord, très positive. Parfois, il m'arrive de repartir avec un certain malaise où je me dis que vraiment, il y a des problèmes, il y a des incompréhensions, ça s'est fait par exemple avec la Pologne. Voilà, il y a vraiment un fossé dans ce que nous entendons par exemple par autonomie stratégique et ce que les Polonais voient dans ce terme qui est vraiment un vilain mot pour eux et sur d'autres sujets aussi. Mais là, je quitte ce pays avec un sentiment vraiment incroyablement positif d'abord parce que dans tous les domaines de notre présence française, on voit qu'il y a une appétence pour le français, on voit que... On a un rôle à jouer, que ce soit sur le plan culturel, économique. Hier, j'ai fait aussi un point avec tous les acteurs économiques. C'est vraiment très positif. Donc, je repars avec ce sentiment, et qui n'est pas simplement un sentiment. Je crois que tous les chiffres, tout ce qui m'a été donné, tous les dossiers que j'ai, qui sont maintenant dans ma valise, sont la démonstration de cela. Donc, je suis très heureuse de cette visite parce que ça a consolidé un petit peu une appréciation que vous pouvez avoir, mais qui était assez vague. Et maintenant, je repars convaincue qu'il y a vraiment des choses à faire ensemble. L'ambassade vraiment joue son rôle à plein régime. Je vois que tous les acteurs, tous ceux qui sont impliqués, sont vraiment sur une trajectoire de construction, de renforcement de cette relation bilatérale. Et c'est très heureux.
Eh bien, merci. Nous arrivons au terme de ce podcast. Madame la sénatrice, merci de nous avoir accordé un peu de temps pour répondre à nos questions. Ça a été un grand plaisir de vous interroger. Je vous souhaite une très bonne continuation et à très bientôt.
Merci beaucoup à vous.